Voilà, gloire au Seigneur, bonjour à tous. On m'a demandé de prendre la parole. Je vous salue vraiment dans le nom du Seigneur. Et avec la Bible, j'aimerais vous dire que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Je crois que c'est important pour nous, pour nos vies, mais aussi au travers de nos vies, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà, donc je suis chargé dans un premier temps de partager avec vous la parole de Dieu. Et je l'espère, comme votre pasteur le disait dans sa prière, non pas un sermon, mais je souhaite, je désire que cette parole dans ma bouche soit la parole de Dieu, la pensée de Christ pour nous ce matin, parce que Dieu nous connaît, Dieu voit nos cœurs et il désire aussi faire une œuvre dans nos cœurs et nos vies. Amen. Alors le texte que je voudrais prendre avec vous ce matin, c'est dans le livre de Jérémie qu'il se trouve au chapitre 18. Merci à votre pasteur pour la confiance qu'il m'accorde. Jérémie, chapitre 18, verset numéro 1. J'ai préparé un PowerPoint pour ceux qui voudraient noter les références de l'Écriture. Je voudrais dire que c'est une pensée forte qui était sur mon cœur, ce texte que je vais partager avec vous, et j'aimerais, si c'est possible, pouvoir aller jusqu'au bout, non pas être trop long, mais je pense qu'au-delà des cadres qui sont posés, il est important aussi d'être à l'écoute de Dieu. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. » Nous arrêtons notre lecture ici. Je voudrais qu'on puisse à nouveau nous incliner et réclamer au Seigneur sa grâce. Voilà, Seigneur, nous t'avons loué, nous avons fait monter vers toi notre reconnaissance, notre action de grâce, notre louange, mais aussi nous voulons prier pour que ce temps de méditation de ta parole puisse, Seigneur, être conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Nous voulons être enseignés de toi, Seigneur. Nous voulons que cette parole bien puisse prendre forme en nous, qu'elle puisse trouver son accomplissement dans nos vies. Nous en avons besoin et nous voulons donner la priorité à ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui m'aide, m'assiste et qui va, je le crois, agir au milieu de nous ce matin. Amen. Amen. Voilà, c'est un texte qui est connu de ceux qui ont la bonne habitude de lire l'Écriture. Et donc ici, Dieu exhorte et encourage Jérémie, lui dit de descendre dans la maison du potier, et il lui dit « Là, je te ferai entendre mes paroles ». Dieu désirait, au travers de ce que Jérémie allait voir, eh bien, lui faire entendre ses paroles. Et cela nécessitait, je crois, puisque Dieu désirait parler, eh bien, de la part de Jérémie, qu'il soit tout simplement à l'écoute de ce que Dieu voulait lui dire. Et au travers de lui, ce qu'il voulait également, eh bien, dire à son peuple. Je crois que le désir de Dieu pour son peuple et de faire de nous un peuple de prophètes, non pas dans le sens du ministère don, mais c'est de faire de nous des hommes et des femmes qui parlent de sa part, n'est-ce pas ? Dieu veut faire de son peuple une voix dans ce monde. Et je crois que comme Jérémie était appelé de la part de Dieu à parler au peuple, eh bien le désir de Dieu c'est de nous amener à être des porte-paroles. Mais cela nécessite aussi, comme il le dit à Jérémie, eh bien que nous soyons à l'écoute de Dieu. Amen. À l'écoute de sa parole. Que nous puissions avoir sa pensée. Et je remarque en parcourant le livre de Jérémie, eh bien, que le peuple a bien souvent négligé d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. Il a refusé d'entendre quelque part, pour reprendre une expression de l'Écriture, ce que Dieu voulait dire au travers de Jérémie. Et cette parole que Dieu délivrait par le biais de Jérémie n'a pas été reçue comme elle aurait dû l'être. Elle n'a pas eu les effets que Dieu aurait voulu voir au milieu de son peuple. Et je dirais qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous et pour nos vies. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, il faut que cette parole, pour reprendre une expression biblique qui est plantée en nous, c'est l'apôtre qui dit « recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous », eh bien quelque chose qui est planté est appelé à porter du fruit. Et je crois que le désir de Dieu en nous faisant entendre sa parole, c'est qu'elle puisse aussi porter du fruit dans nos vies. Amen. Qu'elle puisse porter du fruit et puissions-nous vraiment entendre Dieu lorsqu'il nous parle. L'écouter. Pour entendre, il faut écouter. Il faut se mettre dans une position d'écoute. Faisons un parallèle justement avec l'Ancien Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 25, en s'adressant à des chrétiens et leur parlant du salut, leur déclare « Gardez-vous de refuser d'entendre. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Et j'ai longuement médité sur ce texte de la parole de Dieu, même s'il est dit dans un contexte particulier, où Paul dit aux Corinthiens, me semble-t-il, « Car il faut qu'il règne. » Et je crois que le désir de Dieu d'exercer son règne sur nos vies commence déjà par sa parole. Lorsqu'il nous parle, lorsqu'il s'adresse à nous, le règne que Dieu voudrait pouvoir exercer sur nos vies, eh bien, commence par le fait que nous puissions entendre sa voix, sa parole. Au commencement, dit l'Écriture, était la parole. Et mon désir, c'est que ce soit la parole de Dieu qui soit dans ma bouche ce matin. Ici, Dieu utilise cette parabole pour avant tout montrer à Jérémie et au peuple qu'ils sont dans sa main. Premièrement, je crois que c'est avant tout ce que Dieu veut montrer. Même s'il veut aussi lui montrer qu'il y a un travail qui se fait. Mais Dieu dit « Ainsi vous êtes dans ma main ». Pourtant, dans le contexte dans lequel Jérémie exerce son ministère, on pourrait se poser des questions. Mais pourtant, malgré tout ce qui pouvait se passer au sein du peuple, tout ce qui n'allait pas, et tout ce que Dieu envisageait de faire, par rapport aussi à ce qui n'allait pas, au travers de ce que Jésus voyait des églises de l'Asie mineure et qui n'allait pas, il voulait aussi agir. Il voulait aussi produire quelque chose. Eh bien, malgré tout cela, Dieu dit « Vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Et je crois que c'est le premier enseignement de cette parabole. Si on peut l'appeler comme ça, en tout cas de ce que Jérémie voit. Et en fait, ce matin, je voudrais vous parler de la main de Dieu. C'est dans le psaume 115 où Dieu dit « Les idoles, elles ont des mains et ne touchent pas. » Il y a un texte merveilleux dans le livre de Daniel au chapitre 10 où Daniel dit que le Seigneur le toucha de nouveau et il fut fortifié. Amen. On a appelé la main de Maradona pour les amateurs de football, la main de Dieu. Voyez-vous ? Mais la main de Dieu n'est pas comme ça. Hein ? Ce but qu'il avait marqué en trichant, ce n'est pas la main de Dieu, c'est la main des hommes. La main de Dieu. Il est souvent parlé de la main de Dieu dans l'Écriture. Dans les événements qui se sont déroulés récemment, j'ai vu quelques chrétiens, j'ai vu quelques réactions, quelquefois, où il y a la peur, il y a, par rapport à ce que j'ai pu constater, le besoin, finalement, d'être affermi dans la foi. Parce que, dans le psaume 91, il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta gauche, ou 10 000 à ton côté, toi, tu ne seras pas atteint. Tant qu'on est dans la main de Dieu, tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, enfin, vous comprenez, Dieu est aux commandes. C'est David qui disait dans le psaume 27, me semble-t-il, si une armée se paie contre moi, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. De confiance. La main de Dieu. Il est souvent parlé de la main de Dieu. David disait dans le psaume 31, verset 16, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. Et ici, il exprime sa confiance en Dieu. Dans le contexte de ce psaume, au travers de tout ce qu'il vit, il vit des moments difficiles, il traverse des moments pénibles, mais il peut dire « Mes destinées sont dans ta main, je suis dans ta main ». Voilà. Voilà comment est exprimée sa foi et sa confiance. Et dans le terme hébreu original, cela signifie « Mon temps », c'est-à-dire « Mes jours, mes années sont dans ta main ». Le souffle de nos vies est dans la main de Dieu. Mes jours, mes années, mes secondes, mes mois, mais mes temps aussi. Voilà ce que cela peut signifier. Mes circonstances, mes événements de vie sont dans ta main. Comme ils étaient du temps de Jérémie dans la main de Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Avez-vous vos mains dans sa main, votre vie dans sa main. C'est une chose de lui avoir confié notre vie un jour, mais c'en est une autre de veiller à ce qu'elle reste et demeure toujours dans sa main. Et il est nécessaire de demeurer en lui, et nous demeurons dans sa main. Ésaïe 65, verset 2, dit ceci, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. » Et dans le contexte qui nous rassemble ce matin, nous devons nous souvenir que Dieu, tous les jours, tend ses mains même vers ceux qui sont rebelles. J'ai entendu une parole qui m'a énormément affecté cette semaine, encore une fois par rapport au contexte, d'une sœur chrétienne qui, à des années de conversion, qui a servi le Seigneur, qui a été participante de l'œuvre de Dieu véritablement. Je l'ai entendu dire parlant de ce jeune homme, bon débarras. Alors je ne la condamnerai pas, mais je jugerai ce qu'elle a dit. Parce que Dieu nous demande de juger spirituellement des choses. La Bible dit, ce que je veux, dit Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Tous les jours, je tends mes mains vers un peuple rebelle qui se tend vers les hommes. Une main avec un don, celui de Jésus. Lorsque Jésus est venu vers les disciples Alors qu'ils étaient barricadés, et au-delà d'être barricadés, enfermés dans une maison, ils étaient enfermés dans leur crainte et dans leur peur, Jésus leur a montré ses mains. Et quand on tend les mains, généralement c'est pour donner quelque chose. C'est pour saluer, c'est vrai, mais c'est aussi pour donner quelque chose. Eh bien, voyez-vous, le cadeau était dans ses mains, dans la marque qui était dans ses mains. Et cette main de Dieu qui se tend vers les hommes, elle a un don pour les hommes. Ah, si tu connaissais le don de Dieu, dira Jésus à cette Samaritaine, le don de Dieu. Un don si précieux. Mais nous retenons ceci, c'est que tous les jours, il tend ses mains vers un peuple rebelle. Et ça nous parle pas simplement de ceux qui ne sont pas entrés, je dirais, dans le repos, dans le salut de Dieu, mais de tous les hommes et les femmes qui sont autour de nous et qui vivent comme des rebelles au travers de leur vie, de leur incrédulité. Il est parlé des fils de la rébellion. Et tout cela doit nous interpeller. Si Dieu tend ses mains, nous sommes appelés à les tendre également. Parce que quelque part, nous sommes aussi ses mains. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est une main, je crois, qui est providentielle. C'est le texte suivant. Acte 4, 28, les disciples prient et ils disent « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Tout ce que ta main, eh bien, avait prévu, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et ici, les apôtres disent, c'est ta main qui a prévu et dirigé ces choses. Alléluia. Pour notre salut, pour le bien des hommes. Une main providentielle, c'est-à-dire qui prévoit et qui pourvoit, qui cherche à diriger les choses d'une certaine manière. Alléluia. Et nous devons réaliser cela au travers des circonstances de nos vies, de ce qui nous arrive. Bien souvent, nous mettons l'accent, bien souvent le peuple de Dieu met l'accent sur le diable, etc., etc., etc. Même si c'est compliqué de s'arrêter là-dessus, mais je crois qu'au-dessus de tout ça, il y a la souveraineté de Dieu. Il y a la main de Dieu qui prévoit, qui pourvoit, qui dirige les choses. Et puis, des mains dans lesquelles nous avons été gravés. J'aime particulièrement ce texte de l'Écriture où Dieu dit, en réponse à des paroles que le peuple lui adresse, l'Éternel nous a oubliés. Voilà ce qu'ils disent. Et Dieu répond, bien souvent, comme sur le chemin d'Emmaüs, Dieu nous laisse parler. Et après, il nous parle. Plein d'amour et de grâce. Et il dit ceci, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, voici je t'ai gravé sur mes mains. Et voyez-vous, lorsque nous partageons le repas du Seigneur, qui nous rappelle le sacrifice de Jésus, du don de sa vie, eh bien, nous devons aussi nous rappeler, eh bien, que nous ne sommes pas oubliés de notre Dieu. Que Dieu ne m'oublie pas, mais qu'il a un regard bienveillant sur ma vie. Il se souvient de moi. Il y a une alliance entre lui et moi. J'aime beaucoup ces textes où il est dit « L'Éternel se souvint d'Anne ». Il ne l'avait pas oublié. Alléluia. Une main qui ne nous lâche pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voilà ce que Dieu dit. C'est une main forte. Acte 4, 29, 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et ici, nous avons le moyen de voir cette main forte. C'est la prière, parce qu'ils prient. Et maintenant, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole,
avec une pleine assurance pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Alléluia. Par la main. Gloire à Dieu. J'exhortais les frères et sœurs des Minimes récemment dans ce domaine à garder le cap. Parce que je crois que ce que les apôtres désiraient ici fait partie de ce qui doit accompagner la proclamation de l'Évangile. J'y vois là plutôt un signe, des signes ou des réalités qui doivent premièrement accompagner la proclamation de l'Évangile. Et je leur disais de garder le cap en utilisant cette histoire d'Élimélec qui est parti, lui, dans un temps de famine. Et nous pouvons dire que quelque part, il y a comme une certaine famine au milieu de nous concernant ces réalités-là aujourd'hui. Est-ce qu'elles ne sont pas expliquées justement par ce qui était vécu par le peuple au temps des juges? Chacun faisait ce qui lui semblait bon et il y avait une génération qui s'était levée qui ne connaissait pas Dieu. Mais je leur parlais du fait que si Élimélec avait choisi de partir de Bethléem, là où il y avait une promesse de provision, s'il était au bénéfice du royaume de Dieu, parce que Élimélec signifie « Dieu est mon roi », eh bien les habitants de Bethléem qui l'ont vu partir, eux, sont restés. Et il est écrit que c'est parce que Naomi a appris que Dieu avait visité son peuple qu'elle est retournée. Et je crois que quand on garde le cap, quand on reste dans la foi et dans ce que l'on croit, je crois que Dieu finit un jour ou l'autre par visiter son peuple. Amen. Une main forte qui est capable d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Nous ne devons pas perdre de vue ces réalités-là. Elles font partie de l'œuvre de Dieu, de son désir de se révéler. Elles font partie de ce que j'appellerais la gloire de la rédemption et des signes qui doivent accompagner cette réalité et qui ont accompagné la rédemption du peuple hébreu à sa sortie d'Égypte. L'Écriture dit ceci dans le psaume 145, verset 16. « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait ce qui a vie. C'est une main qui pourvoit. » Alléluia, qui pourvoit pour les besoins de son œuvre. J'en suis convaincu. Il n'y a pas besoin de faire d'appel. C'est une main qui pourvoit. Dieu sait diriger les choses pour pourvoir à son œuvre. Et puis dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Et je dirais ceci pour être équilibré, c'est une main qui n'est pas trop courte pour nous sauver dans nos circonstances. Lorsque nous sommes en danger, l'apôtre Paul l'a expérimenté, mais c'est une main qui peut être retenue, parce que la suite du texte est claire. Mais ce sont vos péchés. La main de l'Éternel, elle n'est pas trop courte. Mais, et ça signifie que cette main, elle peut être retenue dans nos vies quelquefois. Et au milieu de nous même. Lorsqu'il y a de l'iniquité et du péché. Une main qui peut être retenue par l'absence de repentance, de confession, de pardon, de réparation. Et sauver ici veut dire bien des choses. Je vous renvoie au grec sozo qui signifie bien des choses. Et puis j'ai bientôt terminé pour cette première partie et j'enclencherai sur la seconde qui est à mon avis fondamentale et importante. Une main qui désire nous accompagner dans nos entreprises. Cet après-midi, Dieu voulant, nous sortirons. Mais c'est une main qui désire nous accompagner dans nos entreprises, lorsqu'elles sont voulues de Dieu. Attention. Des fois, on voudrait amener la main de Dieu avec nous là où il ne nous a pas demandé d'aller.
Ce qui explique des fois bien des découragements au sein du peuple de Dieu. Et comme je l'ai dit une fois, il est important qu'il y ait une dimension prophétique au service et à l'exercice du ministère de l'Église. Mais regardez ces textes, ils sont tellement bons. Et voyez, j'aime à repasser vraiment comme Marie ces textes sur mon cœur, pour ma vie, pour mon service, pour l'œuvre de Dieu, fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. Et on sait pourquoi elle était sur lui. Car Esdras, dit le chapitre 7, verset 10, avait appliqué son cœur. Il y a un car qui est là, parce qu'il avait appliqué son cœur à méditer l'Écriture, à l'enseigner, à la mettre en pratique. Il cherchait Dieu au travers de sa parole. Vous voyez ? Et je souffre quelquefois. C'est une grande souffrance qui m'affecte des fois, et bien souvent, de voir quel peu d'intérêt aujourd'hui, quelquefois, il y a dans la vie de certains jeunes et de certains enfants de Dieu quant à la parole de Dieu, l'Écriture. Elle est tellement nécessaire, tellement importante, primordiale pour nos vies. Et il dit, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Sur tous ceux qui le cherchent. Il faut chercher Dieu. On n'a pas le temps de développer ce point ce matin sur la recherche de Dieu. Vous voyez, il y a tellement de textes sur la main de Dieu. Et l'Écriture dit, la main de l'Éternel prospérera entre l'œuvre de l'Éternel, pardon, prospérera entre ses mains. Vous voyez, quand une église est dans la main de Dieu, quand ses responsables sont dans la main de Dieu, mais c'est une église qui prospère. J'en suis convaincu. Quand elle est dirigée par le Seigneur, c'est une église qui prospère. Quand c'est une église et des hommes et des femmes qui dépendent de Dieu, qui le cherchent, mais tout cela est appelé à prospérer. Mais c'est aussi une main. Et c'est la diapo d'après. Qui poursuivait, et je terminerai par ça, un but. Et ce but, cet objectif, comme le potier dans l'argile, dans ses mains, eh bien, c'était de lui donner une forme. Ici, le potier a pensé un vase. Il commence à travailler l'argile. L'argile est sur le tour. Il pose ses mains. Une à l'intérieur, une à l'extérieur. Mais voilà que la forme que prend le vase par rapport à ce que Jérémie voit, pour l'usage auquel il le destine, ne correspond pas à ce qu'il a pensé, à ce qu'il voulait, alors il décide d'en refaire un autre. Et je crois qu'il y a quelque chose de prophétique dans ce texte. Il avait pourtant travaillé et posé ses mains, notre potier, mais cela n'allait pas dans le sens ou la forme qu'il voulait lui donner pour l'usage qu'il voulait en faire. Et il n'a pas jeté l'argile. Vous vous rendiez compte si le Seigneur nous jetait? Parce que je suis convaincu que nous n'avons pas toujours la forme. Mais il l'a retravaillé. Dans Genèse 2:7, il est écrit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre ». C'est David qui pouvait dire « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé ». Et la main de Dieu, elle a une vocation de formation, de donner une forme pour un usage auquel il veut nous destiner, non pas un usage auquel nous voulons servir. Si le péché nous a déformés et nous déforme, eh bien, par rapport à la forme que Dieu nous avait donnée, que Dieu avait pensée en tant que racheté du Seigneur, nous sommes dans sa main qui poursuit un but, un objectif. C'est de nous donner ou de nous redonner une forme qui corresponde à l'usage auquel il nous a destinés. Et si Dieu n'obtient pas toujours ce qu'il voudrait, ce n'est pas que Dieu ne sait pas travailler, parce que Dieu ne se trompe pas, mais comme l'argile, quelquefois, nous sommes trop durs. C'est pas vrai? Et lorsque l'argile est trop dure, eh bien, c'est ce qui empêche au potier de lui donner la forme qu'il voudrait.
parce qu'ils rencontrent de notre part bien souvent des résistances, de l'orgueil, parce que nous ne réalisons pas ou nous ne reconnaissons pas toujours dans telle ou telle circonstance ou événement que c'est sa main qui veut nous travailler, nous façonner, nous donner une forme. Lorsque j'ai été dans mon processus de formation et dans lequel je suis encore, il y a une période de ce processus de formation où je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mais en réalité, avec le recul, et bien souvent, nous nous rendons compte de ces choses après. Eh bien, Dieu voulait me former. Dieu voulait me former. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Bien souvent, nous ne reconnaissons pas la main de Dieu qui veut nous travailler.
Il n'arrive pas à ses fins parce que quelquefois, et peut-être bien souvent dans la vie de certains chrétiens, il n'y a pas ce contact que le potier doit avoir avec l'argile. Pour que le potier puisse travailler sa terre, l'argile, il faut qu'il y ait un contact. Et cela nous parle du temps passé devant Dieu, dans sa présence, à son contact, qui quelquefois fait défaut à des vies, et c'est une autre forme qui prend place finalement, celle du monde avec sa mentalité. Parce qu'on n'est pas dans ses mains et on est dans autre chose. Vous savez, un ministère de jeunesse aujourd'hui, peut-être plus, je ne pense pas que ce soit plus compliqué au minimum, peut-être, je ne sais pas. Mais vous avez les jeunes qui sont complètement déformés par le monde dans lequel ils vivent. Ils n'ont pas ce renouvellement de l'intelligence et ils prennent la forme du monde. Et vous avez beau les enseigner, hein, il faut qu'il y ait une révélation, une prise de conscience. Vous avez beau leur dire, ne pas exposer leur vie, des photos qui sont sensuelles quelquefois. Mais parce qu'ils sont nourris, ils prennent la forme du monde, parce qu'ils se nourrissent des choses de ce monde et plus des choses de Dieu. Vous savez, j'ai partagé aux jeunes ce texte récemment où il est dit d'Élie, « Il se leva, mangea et but, et marcha 40 jours et 40 nuits avec la force que lui communiqua cette nourriture jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. » Et il y a quelque chose pour nos vies ici, c'est ce dont nous allons nous nourrir qui impactera notre vie au niveau de sa force. Et le chiffre 40, c'est le chiffre de la tentation et de l'épreuve dans la Bible. C'est le chiffre de la vie. Parce que le contact fait défaut à beaucoup de vies aujourd'hui avec le Seigneur et c'est une autre forme qui prend place. Dans 2 Corinthiens 3:18, il est écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, mais pour contempler quelqu'un, il faut aller dans sa présence. Il faut le considérer pour contempler. Et quand vous le contemplez, il est écrit, eh bien vous êtes transformés. Amen. Mais malgré tout ça, Dieu patiente et persévère. Et l'Écriture nous dit que cela nous est salutaire. Cela contribue à nous maintenir dans le salut aussi. Il veut nous donner une forme. C'est Paul qui dit aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Formé en vous. Jésus soit formé en nous. Et de la même manière que Jésus a été formé dans le ventre de Marie, pour être apporté à ce monde. Eh bien, il doit l'être aussi en nous afin que le monde le connaisse. Afin qu'au travers de ce qu'il forme en nous, il soit enfanté à ce monde. Vous comprenez? Jésus, c'est un cœur qui a aimé. Christ formé en nous. Eh bien, Jésus formé en nous, c'est un cœur qui a aimé, qui a accueilli, qui a été rempli de compassion. Accueillir quelqu'un, c'est plus que de lui dire bonjour et bienvenue. C'est l'accueillir avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses croyances, avec son ignorance. Et Jésus a fait preuve de cet accueil. Et il est écrit « Accueillez-vous comme Christ vous a accueilli ». Jésus, c'est des yeux qui ont vu la souffrance, qui ont vu le besoin. Ce sont des yeux qui ont pleuré, non pas, vous savez, comme les pleureuses, mais qui ont pleuré devant Jérusalem, qui ont pleuré devant le tombeau de Lazare. Je ne m'attarderai pas sur les significations. Mais ce sont des sentiments, finalement. Ce sont des mains qui ont béni. Ce sont des mains qui se sont posées sur les hommes, sur des enfants. Il les bénit. Ce sont des mains qui ont guéri, et c'est le ministère, quelque part, de l'Église et de ses membres. C'est une bouche qui a parlé. Ce sont des pieds qui allaient de lieu en lieu. Acte 10, 38. C'était une onction qui reposait sur lui. Et c'est tellement intéressant de considérer le thème de l'onction. D'une manière, dans la typologie, comment, au travers de l'onction qui est spirituelle aujourd'hui, eh bien, les sacrificateurs étaient oints. Il y avait tout un processus qui nous montre comment on peut porter l'onction et surtout la garder. Enfin, je ne voudrais pas m'égarer, mais une forme. Christ formait en nous, c'est un caractère. Son caractère, il était doux et humble de cœur. Mais encore une fois, pour être utile, pour une utilité. Utile à Dieu et utile aux autres. David Wilkerson disait à la fin de sa vie, « Ce que je désire plus que tout... » Vous voyez, il n'était pas très... Je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit qu'à sa retraite, ils lui ont fait un grand festin. Il est venu 5 minutes saluer les gens, il est parti. C'est dire l'humilité qu'avait cet homme. Il ne souhaitait pas être... élevé. Et il disait ceci, ce que je désire plus que tout, au terme de ma vie, c'est de lui ressembler et qu'il soit formé en moi. Est-ce que la vie de Jésus passe davantage dans ma vie, dans mon être ? Christ formé en nous vient nous redonner la forme, l'image que Dieu, que le péché a déformée. Il est écrit « Existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. » J'ai bientôt terminé, mais je voudrais aller au bout de ma pensée parce qu'elle était vraiment sur mon cœur. Il veut nous former pour servir, et pour cela il va nous donner une forme de serviteur. Parce que ce n'est pas le service qui fait de nous des serviteurs. C'est la mentalité. Et oui, j'ai vu des gens qui servaient plus que tout, mais qui n'avaient vraiment pas la mentalité du serviteur. Existant en forme de Dieu. Et pour que cette forme, elle prenne place, il faut qu'il y ait un dépouillement. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Je vais prendre simplement ici... Le terme diakonos et doulos qui apporte du secours, une aide, qui fait du bien, qui a de l'empressement, du zèle, du dévouement. Il y a doulos, serviteur, esclave, soumission, obéissance, abaissement à soi-même. Il y a un dépouillement qui doit prendre place. Le serviteur est quelque chose avant de faire. Je suis doux et humble de cœur. Je suis.
disait Jésus. Et je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et Dieu nous amenait à être avant de faire. Je disais qu'il peut arriver que nous soyons trop durs. Et quand l'argile est trop dure, eh bien, le potier, vous savez ce qu'il fait, il la piétine. Eh bien, à cause de son endurcissement, Israël a été brisé. Mais toujours pour une vision salutaire. Et je crois que bien souvent, on est trop dur et Dieu nous brise. Mais quand on brise les choses dans ce monde, on les met à la poubelle. Mais quand Dieu nous brise, c'est pour que son œuvre se fasse. Et pour justement que ce caractère, doux et humble de cœur, puisse s'exprimer et se manifester. Et dans tous les hommes qui ont servi au dessein de Dieu, il y a eu ce brisement. Pierre, Job, Joseph, David, il y avait la main de Dieu qui était là. Mes frères et sœurs, Dieu veut faire de nous des vases d'honneur, comme le disait votre pasteur dans sa prière, utiles au maître et utiles aux autres. Des vases d'honneur, et pour que nous le soyons, il faut que nous puissions nous abstenir de certaines choses, comme Paul le dit à Timothée. Sa main, je dois être en mesure de la reconnaître dans les blessures qui me sont infligées et qui sont là pour me former. Zacharie 13:6 dit « D'où viennent les blessures que tu as aux mains ?» C'est dans la maison de ceux qui m'aiment. Des fois des gens qui sont blessés et qui partent. Mais c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que cette blessure elle a eu lieu. Cette main, je dois la reconnaître aussi dans sa correction et dans les jugements pédagogiques qu'il est capable de manifester. Oui, Dieu nous corrige, malgré tout ce que certains peuvent dire, mais toujours en bon pédagogue et à cause de son amour. Sa main, je dois être en mesure de la reconnaître dans mes rencontres. Vous savez, quand on va faire de l'évangélisation, ben, sa main est là. Elle veut nous former. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui peut être rempli de haine, il veut me former. Saül et David, Joseph et ses frères, la main de Dieu est là et ils forment. Dans les circonstances, il y a des chemins de Dieu qu'il veut me faire emprunter, il y a la direction. Et il nous faut réfléchir à tout cela. Et sa main, ce sont des pressions qui s'exercent quelquefois sur ma vie, à certains endroits. Vous savez, ça m'arrive souvent, j'ai un défaut, c'est de me ronger les ongles. Et quand je me les ronge de la mauvaise manière et que l'ongle y pousse de côté, ça fait un panaille. Et le soulagement à tout ça, c'est de faire sortir le pu. Il faut exercer une pression. Et quelquefois dans nos vies, il y a des choses qui sont là et que Dieu voudrait faire sortir. Comme David. Tant que je me suis tu, je n'allais pas bien. Pour que l'infection sorte quelque part. Alors nous ne pouvons pas dire, et c'est ma conclusion ce matin, je suis comme ça. C'est mon caractère. Avec de l'orgueil, de l'insoumission face au processus de Dieu. Cette argile, il est destiné à devenir un vase. Et ce vase, c'est l'image de notre humanité, de notre nature charnelle, qui a besoin d'une œuvre de l'Esprit de Dieu, par l'eau. J'ai besoin d'être sur son tour pour devenir un homme, une femme spirituelle dans ses attitudes, dans ses réactions, dans sa vision, dans sa mentalité. Amen. L'eau nous parle de l'action du Saint-Esprit dans ce processus, le tour, et bien tous les aspects de nos vies qui doivent passer sous le regard de Dieu. Je dois être au milieu de tour, parce que si je ne suis pas au milieu, je risque de devenir quelqu'un d'excentrique. Oui, alors que Dieu veut nous faire de nous, pardon, des hommes et des femmes équilibrés. Un vase, il est appelé à être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Voilà ce dont nous avons besoin pour évangéliser. au-delà de la connaissance, au-delà des méthodes qui en réalité sont secondaires. C'est du Saint-Esprit. Comme Étienne était plein, il vivait dans la plénitude. Et l'Écriture dit « Soyez continuellement en train de vous remplir du Saint-Esprit ». Voilà comment ce vase peut être rempli. Cuit, c'est l'épreuve, décoré, et ça nous parle des dons que Dieu veut nous communiquer. Il y a un ornement sur le vase, parce que ça ne suffit pas qu'il soit cuit, il faut qu'il soit décoré. Alors vous me pardonnerez, j'ai été un peu plus long ce matin. Mais je crois vraiment, avec humilité, que c'était la pensée de Dieu, en tout cas celle qu'il voulait que je partage avec vous. Amen.